Indians.
Alors ça, c'est le premier album des Beach Boys. C'est une chanson qui s'appelle Ten Little Indians. Et voilà, ça c'est un album qui était qu'on avait à la maison quand j'étais petit. Et c'est un album qui vraiment qui synthétise toutes les années 60 pour moi. Tout, la pochette. J'ai passé des heures à regarder cette pochette où ils sont dans une espèce de petite voiturette jaune avec une planche de surf. Il y a des branches de palmiers. Enfin, c'est vraiment.
La voiturette est arrêtée juste au bord de la mer.
Oui, ça me fait vraiment. Enfin, c'est vraiment le Cap Falcon, quoi. Si vous voulez, c'est vraiment exactement cet endroit de mon enfance. C'était pareil pour moi, et j'écoutais tout le temps ce disque.
Ça, vous écoutiez. Vous aviez quel âge?
Je sais pas. J'avais 5-6 ans à peu près. 5-6 ans. Voilà. Ça, toutes les années 60, quasiment, sont pour moi sont contenues dans cet album.
C'est le disque d'époque que vous écoutiez pratiquement?
Oui, c'est le même, ouais. Alors après, il y en a un autre, ils sont bien conservés quand même.
Mais Étienne, c'était un peu un ovni, quoi. Il était un peu seul, effectivement. On ne savait pas d'où il venait et on n'avait pas compris où il allait non plus.
Les médias francophones publics vous proposent...
Globalement, ça va. Enfin, je veux dire, je ne suis pas de...
Dao, fan de pop.
Je suis assez...
Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer.
Spontané, je crois, je dis pas mal de choses. Donc voilà. Et puis, bon, il y a des choses qu'on lâche parfois. C'est pour ça que j'aime bien la radio, et en fait, j'aime bien les choses en live, et j'aime bien la radio. Parce que même si on peut remonter en radio, quand on dit des choses, il y a le ton. Et avec le ton, on a le vrai sens des choses.
Avec Étienne Dao, chez lui à Paris, dans son appartement de la Butte Montmartre, sa base depuis le succès de son troisième album, Pop Satori. Premier épisode, c'est l'après-midi. Imaginez un salon minimaliste avec une table carrée, des fauteuils blancs cassés et une discothèque géante dans laquelle le chanteur-compositeur conserve ses trésors. Des milliers de vinyles dont certains datent de sa jeunesse.
Dao, fan de pop.
Premier des 9 épisodes pour se glisser sous la peau et dans les sillons de Dao.
Aujourd'hui, le passager.
Il revient avec un nouvel album, Blitz, au son rock et âpre.
C'est un album qui est très dense, très touffu.
Cet album sombre et lumineux.
Blitz développe un univers dense et enfumé.
Ultra audacieux, ultra risqué.
Nous étions 12.
Le pape de la pop musique à la française, Étienne Dao, sort un nouvel album, Blitz, qu'il a conçu à Londres sous influence psychédélique.
Blitz, le nouvel album d'Étienne Dao.
Tout est blanc, défoncé.
Étienne Dao revient avec Blitz, son 12e album.
Cette image sur la pochette, une photo en clair-obscur du chanteur, casquette noire en cuir à chaîne, un air de Marlon Brando pour cette invitation à une équipée sauvage.
Il y a l'étonnement d'abord. L'étonnement d'entendre un Dao toute guitare dehors, une fureur rock à laquelle on n'associe pas forcément cet homme. Une chanson française qui a l'ambition du western et des grands espaces, avec la mise en scène d'une cavalcade d'Amazon au poignard ensanglanté.
Le soir, déplie ses voiles sombres, enveloppe. Les trottoirs et les bois. Et là dans la pénombre, personne ne nous voit. Infidèle égaré sur les pavés. De nous, l'étincelle invisible à vos yeux, cet éclat vénéneux, les perles silencieux,
au fond de nous, l'étincelle. Dans le canot rageux, cet éclair dangereux, des héros silencieux. Très difficile de pas juger. On a cette chose là comme ça qui est assez spontanée. Rien ne me choque en fait. Rien ne me choque sauf les gens qui font du mal gratuitement ou les gens qui font des entourloupes financières. Ça me choque. La tricherie, la tromperie, ça me choque. Ma famille m'a transmis des valeurs qui sont assez bienveillantes pour les autres. C'est une famille de gentils.
J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi persévérant que ça. Hein.
Cricket Éluard, ami d'enfance d'Étienne Dao.
Il n'a pas arrêté, il l'a voulu et il a réussi. Il faut savoir que c'est quelqu'un d'extrêmement volontaire, qui est capable de faire beaucoup de sacrifices. C'est un bosseur. Il est très curieux parce qu'il a ce côté à la fois extrêmement fantaisiste, mais il est capable de mettre beaucoup de sérieux, beaucoup de volonté, beaucoup de courage pour pouvoir vivre cette fantaisie. Ça, c'est assez particulier, parce que c'est un milieu que je connais un peu pour quand même avoir fréquenté pas mal de ces gens-là. Moi, j'ai vu des gens assez fantaisistes, avec des rêves, vouloir faire des choses, etc. Mais Étienne, là où il a été plus futé que les autres, c'est qu'il a tout de suite compris que pour réaliser ses rêves, il fallait du courage, de la volonté, retrousser ses manches, faire des sacrifices, et il les a fait. Voilà, et il est toujours comme ça.
L'histoire de la grosse tête, alors tu l'as, tu l'as pas ?
Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression parce que, en fait, j'ai commencé à faire ce métier, entre guillemets, quoi. Le moteur étant des choses tellement personnelles et pas du tout l'envie d'être devant, d'être une star et tout ça, que ça m'impressionne pas tellement, quoi. Tout ce qui m'arrive en fait en ce moment, je suis très content parce que c'est comme ça, c'est comme un boomerang qu'on te renvoie. Tu fais des chansons que tu adores et ça plaît aux gens, c'est ça qui est intéressant en fait. Le reste c'est anecdotique. Je sais pas, si j'avais commencé à 17 ans, peut-être que ça m'aurait fait enfler la tête. Mais je sais pas, là. Non, c'est pas un truc auquel je pense. En fait.
Dao. Fan de pop.
Moi, je suis né à Oran. Et le Cap Falcon est à une vingtaine de kilomètres d'Oran. C'est un petit village de plage, très petit, avec un phare, une plage. Il y avait une école, qui était une église, dans laquelle, une école dans laquelle je suis allé pas longtemps, en diagonale, parce que les enfants, on était trois élèves dans l'école, dans ma classe en tout cas. Il y avait un grand qui avait 17 ans, un autre qui devait avoir 12 ans, et moi qui en avais 6, quoi. Donc, vous imaginez les programmes.
Pour lui, c'est une très très grande déchirure, puisque le Cap Falcon, pour lui, c'est le paradis.
Benoît Cachin, journaliste.
C'est, il va d'ailleurs en faire un album plus tard qui s'appellera Eden. Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu merveilleux, c'est la douceur de vivre. C'est l'enfance entourée de ses tantes dans cette station balnéaire où il écoute les yéyés avec ce fameux jukebox.
Mmh, c'est vrai. C'est vrai qu'on me mettait sur le comptoir, sur les tables et je dansais. Ouais.
Et pour lui, c'est la douceur de vivre, c'est vraiment sa Madeleine de Proust.
Je pense qu'il y a une sensation du paradis perdu, quelque part. Même si j'ai vécu dans beaucoup d'autres endroits et beaucoup plus longtemps, notamment en Bretagne ou même à Londres, où j'ai vécu beaucoup plus que 6 ans, j'ai dû y passer plus de 15 ans. Une sensation du paradis perdu, parce que il y avait à la fois une sensation de liberté, le soleil, une famille très aimante, qui m'entourait beaucoup, la musique. De l'autre côté, il y avait des choses beaucoup plus difficiles, la guerre, les séparations. Mon père qui n'était plus là, il y avait des choses à la fois compliquées, mais je pense que les enfants et le monde de l'enfance réussit à recréer quelque chose qui fait que je n'ai pas vécu ces moments comme des moments difficiles.
Léger tes yeux. Ailleurs, tu dis que c'est toujours mieux.
j'en vois ma mère, mes grands-parents, les sœurs de ma mère, qui étaient quatre, c'était cinq filles. Très vivantes, pleines de vie, vraiment de vitalité, d'amour. Enfin, j'ai vraiment cette sensation d'être vraiment entouré et d'avoir vécu des moments vraiment de fête, quoi, vraiment de légèreté. Alors que c'était assez terrible parfois. Je suis allé en pension pendant quelques mois à l'âge de 5 ans. Enfin, vraiment, il y avait des moments de séparation, qui ont été très difficiles, bien sûr. Hein. Mais j'ai vécu ces difficultés-là bien après. Je crois que le monde de l'enfance m'a permis de me protéger de ce qu'était vraiment le monde de ce moment-là. Et tout le monde, d'ailleurs, a essayé de me protéger au maximum. Ma famille, hein, comme ils ont pu. Et voilà, je veux dire, c'est un pays en guerre. Et je pense que tous les enfants de tous les pays en guerre recréent leur monde et arrivent à traverser les situations les plus sombres et les plus noires en jouant sous les bombes. Ce n'est qu'après que les choses reviennent, en fait. J'ai compris tout cela beaucoup plus tard.
Il avait une photo fétiche.
Sylvie Coma, journaliste et amie d'Étienne Dao.
C'est une photo en noir et blanc, on le voit, il doit avoir 4 ans, 3-4 ans. Et il est avec un petit boxer short là, devant un énorme jukebox. Et c'est très emblématique de ce qui se passera par la suite. Ça, cette photo, c'était l'époque yéyé. Donc on imagine, je sais pas, cette photo elle m'a toujours fait fantasmer parce que j'imaginais les titres qu'il y avait dans ce jukebox. Et je crois qu'on voit aussi une de ses sœurs. Il avait deux sœurs. Voilà, une de ses sœurs. Mais son père, il l'a très peu connue. Puisque son père a disparu, enfin s'est volatilisé, hein, il n'est pas mort. Son père s'est volatilisé quand il devait avoir, je ne sais pas, 5 ans.
J'ai eu la sensation que c'était la dernière fois que je le voyais, étrangement. Il est venu donc au Cap Falcon, il était en jeep avec deux amis à lui, qui sont restés au bar, enfin parce qu'en fait, mes grands-parents avaient un établissement qui était séparé en deux. C'était la même terrasse, une terrasse commune, mais d'un côté il y avait une épicerie avec les épices, les olives, les produits, enfin les fruits et légumes. Et de l'autre côté il y avait un établissement de boissons et de glace, de soda et de glace. Il n'y avait pas d'alcool. Et il y avait ce jukebox avec une caserne en face, avec donc des tas de jeunes militaires. Ils avaient 20 ans. C'était vraiment des jeunes gars qui venaient boire des verres et boire des sodas et écouter de la musique. Et mon père est arrivé, je ne me souviens pas de ce qu'il m'a dit, il m'a peut-être rien dit, mais il m'a amené, il y avait une terrasse au-dessus de cet établissement, qui était aussi l'endroit où on habitait en fait, il était divisé en plusieurs appartements avec une terrasse, et il m'a amené sur la terrasse, il m'a serré contre lui, j'ai senti que quelque chose, j'ai senti que c'était un moment, voilà, j'ai senti qu'il y avait... Il y avait quelque chose, alors je n'ai peut-être pas perçu que c'était la séparation tout de suite, hein, mais j'ai senti que je ne le reverrais pas, en fait. Et j'ai lutté contre cette sensation un peu vertigineuse de la fin de quelque chose.
Le danger de retourner au Cap Falcon 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, c'est forcément de ne plus du tout retrouver cette douceur de vivre, donc d'être très déçu et d'abîmer ses souvenirs. Et je pense qu'Étienne ne veut pas les abîmer. Donc, à mon avis, il ne retournera jamais là-bas pour garder ce souvenir, cette douceur, la douceur de son enfance qui, à côté, a été très brutale, notamment à Oran. Mais le Cap Falcon, c'est un lieu très, très particulier pour lui.
À partir du moment où mon père est parti, il y a eu un silence général de toute la famille. Et donc, j'ai senti qu'il fallait garder le silence. Enfin, mes sœurs et moi sentions qu'il fallait garder le silence. Alors après, on ne sait pas. Quand on est enfant, on se pose mille questions. Je ne savais pas s'il avait fait des choses... répréhensible, s'il avait fui parce qu'il était en danger. En tout cas, il était persona non grata. C'est sûr qu'il était pas du tout apprécié par mes grands-parents, particulièrement par ma grand-mère.
Mais vous n'avez rien demandé.
Non, je sentais qu'il fallait rien demander. Et je m'y suis tenu. Et ma mère n'a d'ailleurs jamais rien dit de désagréable sur lui, même à un âge très avancé. Elle n'a jamais rien dit de négatif sur lui, même si elle avait des raisons, véritablement, assez nombreuses. Elle ne nous a jamais parlé de lui en comme d'un être négatif, vraiment. Et donc on a conservé une idée un peu fantasmatique, en tout cas ma sœur qui est un peu plus âgée que moi et moi-même, dont les plus jeunes, on avait une image un petit peu fantasmée. Il représentait la légèreté, le refus des normes, de s'installer, le refus d'être un père de famille, en fait. C'est resté un jeune homme toute sa vie, c'est resté un jeune homme qui aimait la musique, la fête, les femmes, qui aimait... c'était un hédoniste, voilà.
Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi.
Cette superbe reprise de la chanson d'Edith Piaf, là, c'était d'ailleurs quand même un gros challenge, parce que reprendre un tube comme ça et en faire un deuxième tube, finalement, qui est à la fois très différent de l'original et en même temps qui, encore une fois, trahit pas.
Rhône, musicien.
Pour moi, c'est une chanson à la fois éternellement moderne. Quand je l'écoute encore aujourd'hui, elle aurait pu sortir hier. Et une chanson d'amour magnifique aussi. C'est une chanson qui souvent m'a accompagné dans mes histoires d'amour. Il y a une espèce de transe comme ça, de trucs très doux et en même temps très hypnotique.
Tu me fais tourner.
Je la trouve sublime.
La tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à fête. Quand tu me tiens dans tes bras. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ah, ce qu'on est bien tous les deux. Quand on est ensemble, nous deux. Quelle vie on a tous les deux.
Comment définir la voix de Dao ? En 84, l'écrivain et journaliste Hervé Guibert propose « Il chante d'une voix formidablement suave, des chansons alcoolisées pleines de pluie et de langueur. » Pour Lauride, sa voix, c'est comme du champagne, comme un coucher de soleil. Gérard Lefort, écrivain et journaliste.
C'est une voix sombre, je dirais. On dirait, classiquement, on dit une voix grave. Oui, il a une voix plutôt grave. Mais c'est une voix sombre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une voix profondément mélancolique. Je trouve que c'est ça qui caractérise sa voix, c'est une sorte de mélancolie sourde, sombre, mais tenace. C'est une voix qui, tout en chantant, fait preuve d'un certain quant à soi, ou d'un certain recul, d'une certaine conscience de ce qu'il est en train de faire et de chanter, en l'occurrence. C'est ça, je dirais, une voix mélancolique, plutôt qu'une voix de basse ou une voix grave.
Autrement, bon, la voix est un peu noyée à dessein dans la musique, dans, oui, les rumeurs. Bon, eh bien, donc, c'est seulement quand, surtout, je veux dire, quand il me parle, quand nous parlons ensemble, que je peux écouter sa voix.
Brigitte Fontaine, une voix comme celle d'Étienne Dao, qu'est-ce qu'elle dit de sa personnalité ?
Beaucoup de réserve, de dignité et en même temps de chaleur, mais pas du tout fausse. Quelque chose de véritable. Vous comprenez ? C'est assez rare, à mon avis.
Il y avait mon grand-père qui était une figure très forte, qui représentait à la fois l'autorité tranquille, très respecté par sa femme et ses filles, et il était vraiment comme une espèce de figure centrale. Donc il y a quelque chose de lui, si vous voulez, qui m'a beaucoup marqué. En fait, son calme, le fait d'obtenir les choses sans élever la voix, j'étais beaucoup plus marqué que je ne le pense par cet homme, en fait. Donc il a été pendant longtemps d'ailleurs la seule figure masculine à laquelle je pouvais m'identifier. Mais c'est une belle image, belle figure.
Et puis, il y a une phrase très forte qui a dû vous frapper comme petit enfant et qui précède votre départ pour la France, qui est « On va brûler chez Dao ».
Oui, ça, c'est un épisode que j'ai revécu à travers une chanson. Et c'était une chanson hommage à ma mère qui s'appelle Lucie. Et j'avais envie de faire cette chanson, c'était un épisode très marquant. Parce que là, c'était à Oran. Et nous étions dans l'appartement dans lequel nous vivions. Et il n'y avait plus personne dans l'immeuble, on était vraiment les derniers. Tout le monde était parti. Mais nous sommes partis très tard en fait. Et il y a tout un groupe de gens qui hurlaient dans la rue et qui mettaient le feu aux appartements et qui chassaient tous les gens qui restaient dans les maisons et dans les appartements. Et j'y étais avec ma mère et mes sœurs, qui étaient sans défense. Je me souviens qu'elle avait coincé une chaise comme ça contre la porte. Et voilà, elle était derrière la porte pour nous défendre. Enfin, c'était absurde de toute façon. Elle était sans défense. Elle a vécu des choses très difficiles. Elle a dû avoir très 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 peur. Elle n'en a jamais parlé. Ma mère est une femme qui ne communique pas du tout ses émotions, les bonnes comme les mauvaises. Elle a un côté très rigide comme ça. Mais bon, dans ma sensation de petit mâle en fait, parce que j'étais le seul garçon. Je me sentais la nécessité de nous défendre, mais je ne pouvais pas. C'est ce que je dis dans la chanson. Je dis, pour nous défendre, je suis bien trop petit. Et c'était cette sensation d'impuissance, justement, qui était terrible. Et puis la peur de voir les flammes derrière les volets. Tout était orange dans l'appartement. Et puis la sensation vraiment qu'on allait, qu'on allait y passer. Ouais.
Etienne Dao, quels sont les sons de cette époque qui vous reviennent? Bon, il y a des images, on commence à les percevoir, mais les sons?
Le premier album des Beach Boys, parce que mon père avait cet album et que c'était un grand amateur de musique. Il aimait beaucoup la musique, il ramenait plein de disques à la maison. Enfin, les souvenirs que j'ai de lui sont des souvenirs de quelqu'un de joyeux, de fêtard, toujours entouré de tas de copains. Et il ramenait des disques, beaucoup de disques, et on écoutait beaucoup de musique à la maison, parce qu'entre ma mère qui était aussi une grande fan de musique et mon père, il y avait beaucoup de musique chez moi. Donc dès tout petit, il y a eu beaucoup de musique. Voilà, je me souviens de l'album des Beach Boys et puis de tous les yéyés. Vraiment, c'est pour ça que j'ai encore à ce jour une affection. Et il suffit d'entendre une chanson même que je n'aime pas, je la connais par cœur, quoi. C'est fou. Je vais pouvoir me surprendre à chanter une chanson même qui m'est complètement, que je n'ai pas écoutée depuis très longtemps, par cœur en fait. Je n'ai pas oublié ces moments de musique. Donc voilà, il y avait des chanteurs yéyés que j'ai découverts et que j'adorais. Il y avait Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, mais surtout Françoise Hardy.
Étienne n'a jamais fait de plan de carrière.
Sylvie Coma, amie d'Étienne Dao.
Il savait que de toute façon, s'il voulait rester vivant, il fallait qu'il fasse ça, qu'il soit dans la musique. Qui chante et qui fasse de la musique, qui écrive des textes et qui sans doute rejoigne aussi toutes ces idoles, comme on disait dans les années 60. Le musée qu'il avait dans la tête, quoi. Tous ceux qu'il admirait, ces icônes, que ce soit Hardy, Nico, Jeanne Moreau, Gainsbourg.
Ni les tam-tam du yé-yé-yé. T'as du run, run que tu écoutais. Au bar, doum, doum, où tu dansais. Non, rien n'aura raison de moi. J'irai te chercher ma Lolita chez les yé, 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 yé. Sous les tam, tam du yé, yé, yé. Je me connais. Oui, à sing, sing, je finirai. J'ai un coupe, coupe à cran d'arrêt. Bon, rien aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les yé, 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 yé.
fan de pop.
Je crois que j'ai compris assez tôt, parce que les circonstances ont fait que j'ai dû me protéger moi-même. Et que j'ai la sensation d'être la seule personne qui me protège. Vraiment, je pense que c'est commun à beaucoup de gens. On est la seule personne qui se protège. Mais j'ai eu cette sensation d'une manière très très aiguë. Et peut-être que ça m'a donné cette forme de certitude des choses qui me conviennent et de celles qui ne me conviennent pas. Et donc de rejeter vraiment d'une manière assez ferme ce qui ne me convient pas. C'est peut-être ça.
Et ce qui était en effet très frappant, c'est que je pense qu'il avait fait un long travail préalable. Et en fait, il avait une idée très précise de ce qu'il voulait, quoi.
David Chauvel, scénariste de BD.
Ils nous en ont parlé d'ailleurs en studio, on a un petit peu échangé avec eux sur le sujet. Il avait à la fois cette ligne directrice très forte et certainement des choses qu'il entendait déjà, ou qu'ils avaient mis dans, pas seulement ce qu'ils avaient mis dans les maquettes, mais que lui avait déjà en tête. Et donc, il travaillait sur ce qu'il avait en tête avec les musiciens, puis il leur demandait aussi leur avis, leur apport personnel, ce qu'eux auraient fait, etc. Et ensuite, il faisait le tri. Donc, il y avait une porte ouverte quand même à l'apport de chacun, mais à l'intérieur d'un chemin qui était tracé et qui était très... Enfin, Étienne, en studio, c'est, visuellement, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'il est... on a l'impression que son cerveau tourne à mille à l'heure et qu'il est en train d'essayer de trouver le meilleur moyen de faire sortir quelque chose qu'il a déjà.
Je pense qu'on travaille Edith Fambuena avec quelqu'un qui lui-même ne joue pas vraiment d'un instrument.
Oui, alors il n'est pas instrumentiste, mais c'est un musicien, ça, il peut chanter n'importe quel truc. Alors, il me dit, bon, tu peux me faire un tacatacatantan. Bah oui, bah tu fais tacatacatantan. Donc pour moi, c'est plus facile de jouer avec un bon musicien qui n'est pas instrumentiste qu'avec un bon instrumentiste qui n'est pas musicien.
C'est-à-dire qu'il vous chante ce qu'il a envie d'entendre.
Voilà, il chante, mais que ce soit à moi ou que ce soit à tout le monde. Hein. Il peut chanter un solo de saxo aussi, mais il est comme ça, il chante. C'est un gros magnéto en fait. C'est un énorme magnéto. Et après, il fait son jukebox. Voilà. Il enregistre beaucoup d'informations, c'est un gros sampleur. Enfin, voilà. Et puis, il entend bien les trucs, il les oublie pas. Et puis, bing. Et puis après, il les chante. Et puis, alors, c'est génial parce que c'est des trucs qu'on ne pense pas. Ou, voilà. Il a toujours été comme ça, toujours, toujours.
Il est assez très exigeant.
François Poggio, guitariste.
Il a une idée en tête, c'est assez précis. Il nous laisse vraiment... enfin, moi, en tout cas, il m'a laissé énormément de liberté, finalement, à l'intérieur des morceaux. Il m'a dit, vas-y, tu essaies des choses aussi, tente, et notamment les références qu'il citait, donc ça peut être Unloved, ça peut être le premier Pink Floyd, ça peut être... Et pour moi, en tout cas, je l'ai vécu comme une... Je me rappelle notamment de la première fois à Londres, c'était chez Fabien, avant même qu'on aille en studio, mais on a quand même gardé les prises guitare chez Fabien. Et c'était un truc où il y avait un total laisser-aller, quoi. Il y avait déjà beaucoup de choses. Et il m'a demandé, vas-y, fais en pensant à telle référence ou telle référence.
Tu nous l'envoies du début,
Oui.
S'il te plaît.
Car tu me vois et tu m'entends, et tu m'entends.
C'est assez fusionnel. En général, je choisis les gens avec lesquels je travaille parce qu'ils comprennent exactement ce que je veux. Parce que n'étant pas musicien, j'ai besoin d'avoir le relais. J'ai besoin qu'ils deviennent moi, d'une certaine manière. Même s'ils contribuent avec leur talent et leur patte et leur style, j'aime bien les guider beaucoup, leur faire écouter des choses que j'aime, leur faire écouter des sons, les aiguiller beaucoup sur ce que j'entends vraiment, parce que tout est déjà là, quoi. Tout est déjà dans ma tête. C'est compliqué, hein. Parce qu'il est déjà fini, le disque, dans ma tête. Donc après, la fabrication, je trouve que ça prend toujours trop de temps. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est quelqu'un qui travaille énormément en amont pour que le temps de studio soit le plus court possible.
Lou Doyon.
Et là-dessus, il a des qualités de quasiment d'ouvrier, je sais pas comment dire. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas nonchalant, qui n'est absolument pas mondain, qui ne prend pas ça pour de la rigolade du tout. On est en studio comme on va à l'église, on y est à l'heure, on travaille précisément en donnant le mieux et le plus de ce qu'on a, et ensuite on rentre à la maison. Le studio n'est pas un endroit pour faire la fête, pour faire n'importe quoi, c'est pas un endroit pour expérimenter non plus, c'est un endroit vraiment pour rendre un travail fini qui a été mûrement réfléchi et intellectualisé chez lui, dans sa tête. Enfin voilà, il m'a appris aussi des méthodes de travail que je continue à garder aujourd'hui.
Il est très organisé.
Alfred, dessinateur.
Je pense que quand il attaque un nouvel album,
Et quand il va entrer en studio, il sait déjà exactement où il va. Il sait très certainement ce dont il ne voudra pas. Et il y a des choix qu'il a déjà fait dans sa tête. Je pense qu'il est prêt à accueillir les imprévus, mais il décide très très vite ce qu'il en fait. Et c'est pas quelqu'un qui se laisse dépasser, je pense, par ce qui pourrait survenir pendant l'enregistrement d'un disque. Il a une idée assez précise. Je pense qu'il sait vraiment ce qu'il veut raconter. Il sait ce qu'il veut que les gens entendent ou reçoivent. Du coup, ce qui m'a intrigué, c'était de voir à quel point il était donc organisé, méthodique, lui, pour lui-même, et exigeant, et à quel point cette manière de l'être avec lui-même, de préparer les choses à l'avance, imposait sans violence à ses collaborateurs la même exigence.
Dao, fan de pop.
Est-ce que c'est facile de coucher sur la bande, on va dire, ce qu'on a dans sa tête et de retrouver ce qu'on avait au départ dans sa tête, vraiment que ça ressemble ou que ce soit exactement l'image que vous aviez ?
Je fais tout pour. Tout. Je fais tout pour y parvenir.
Mais vous y arrivez ?
Oui. Je lâche pas comme ça. Hein. J'ai jamais lâché une chanson. Peut-être au début, il y a des chansons que j'aime pas trop, sur les deux premiers albums. Mais à partir de Pop Satori, il n'y a pas un coup de cymbale que je pourrais renier.
La chanson qui m'a le plus marquée, c'est Révolution.
Sandra Gaudin, amie d'Étienne Dao.
Qui était sur un disque qui n'a pas forcément bien marché, mais qui, chez moi, a réveillé quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé à réécouter Étienne. Et cette chanson Révolution, oui, dit, puisque l'avenir dépend de notre foi, de notre irrépressible envie de vivre, le futur sera bien plus que parfait. Debout est le point levé. Je crois que c'est comme ça. Alors, ça m'a complètement transcendé. Et tout l'album, je trouve qu'il est absolument génial. Et c'est là que j'ai découvert que c'était vraiment un poète des temps modernes, comme il n'en existait pas beaucoup. Parce qu'il arrive, avec les mots de maintenant, à justement réinventer une écriture qui touche et qui emmène plus loin.
Soldats de la rue, louanges déçus, que tous les cœurs vaillants oubliés, et les âmes pures revêtent l'armure dans un monde évolué. Réécrire l'histoire à vos étendards, de quel côté l'épée va frapper. Pour un peu d'amour, où sont les tambours dans un monde évolué. Puisque l'avenir dépend de notre foi, de notre irrépressible envie de vivre, le futur sera bien plus que parfait. Oh, 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 oh. Debout est le point levé. Le point levé. Le point levé. Pour la vérité, pour la liberté, le spirituel, la beauté, les arts et les sciences, et la différence dans un monde évolué. Puisque l'avenir dépend de notre foi, de notre irrépressible envie de vivre, le futur sera bien plus que parfait. Oh, oh, oh.
Chanteur, compositeur, icône, énigme, mystère. À la fois dans l'ombre et dans la lumière, loup solitaire qui aime s'entourer, homme public secret, un sérieux qui rêve de légèreté. Dao, insaisissable, vraiment ?
Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point...
Sandra Gaudin, amie d'Étienne Dao.
Ses albums, c'est lui. C'est pour ça que ça me fait toujours sourire les gens qui disent qu'il est secret, parce qu'il dit tellement de choses dans ses albums de lui. C'est vraiment incroyable. Enfin, c'est très poétique, mais très... autobiographique aussi. Ça part toujours d'un sentiment, et je crois qu'il utilise toujours même les moments difficiles, c'est-à-dire qu'il arrive avec chaque blessure, avec chaque souffrance, à en faire une part de créativité et en faire une œuvre.
C'est ma vie qui influe sur la musique. Après, j'adapte ma vie à mon travail. J'ai un travail qui va vers l'extérieur, je crée des liens avec les autres. Et dans mon métier, il y a aussi un deuxième métier qui est celui de se montrer, qui a toujours été un problème pour moi. De me montrer, de faire des photos, de faire des clips, de faire des télés, c'est un problème. Je dois me mettre en condition pour le faire. Si je dis oui, je le fais. Vous voyez, là, je me confie à vous. Je vous ai dit oui, je vais jusqu'au bout. Mais parfois, je trouve ça difficile. Parfois, j'ai pas envie de me montrer. Parfois, je préfère largement être en studio, écrire des chansons, et puis me nourrir avec une expo, un bouquin, un film, et ça aura un impact et un écho sur mon travail. Je nourris mon travail. Ou de rencontrer des gens que je ne connais pas, de me promener et d'être accosté par des gens, de parler avec eux. Enfin, tout ce qui est la vie, quoi. Tout ce qu'on récupère de la vie. Et voir le monde. Ça, c'est important.
Vous savez, dans les fêtes, parfois j'en donne pas beaucoup. Hein.
Jane Birkin.
Mais parfois, les anniversaires. Ben, quand il vient, les gens sont toujours sidérés, les Anglais, par exemple. À sa modestie de s'intéresser aux autres, comme s'il était, faisait autre chose, je ne sais pas, jardinier ou spécialiste dans les marshmallows. Il n'est pas du tout prétentieux, pas du tout showbiz, parlant de... Non. Et c'est un invité délicieux parce qu'il s'intéresse aux autres, sincèrement. Sincèrement.
Moi, il n'y a jamais énormément de gens qu'on aime dans sa vie. Donc j'avais très peu d'amis quand j'étais lycéen ou en fac. Quand j'étais à Rennes, les gens que j'aimais, je les aime toujours. Les gens avec lesquels j'avais pas d'affinité, bah, j'en ai toujours pas avec eux. Et puis après, au fur et à mesure de la vie, il y a des gens qui apparaissent, des belles surprises, pas beaucoup, mais heureusement. Des belles amitiés, il y en a qui s'éteignent, hein. Ça arrive, il y a des fois des trahisons, des malentendus, ça peut arriver. Mais globalement, tous les gens avec lesquels j'ai noué des liens, j'ai toujours ce lien qui perdure.
Ce qu'on vit, nous, avec lui, est totalement différent de ce que je peux entendre de lui.
Cricket Éluard, ami d'enfance d'Étienne Dao.
Moi, de toute façon, Étienne, je le garde enfant, enfin, je garde adolescent et enfant. Le personnage que je vois, je ne suis pas surprise, si vous voulez, il n'y a rien qui m'étonne. Mais moi, j'ai dans ma vie un autre Étienne.
Qui ressemble à quoi, alors, celui-là ?
À ce qu'il était enfant, toujours. Toujours rieur, toujours... Parce que c'est quelqu'un de très drôle, avec qui on a énormément de fou rire. On rit de bêtises, on a toujours ce côté... Il y a toujours entre nous ce lien enfantin qu'il veut préserver, je crois, que nous, on veut aussi préserver avec lui.
Mais j'ai peu d'amis, en fait. J'ai peu d'amis et... J'ai peu de temps à consacrer, en fait, et à la famille et aux amis, hélas. Enfin, j'aimerais y consacrer plus de temps, mais j'ai du mal. J'ai pas beaucoup de temps. Surtout dans des périodes comme ça, où il y a un disque qui sort, une tournée qui arrive. On est enseveli par une tonne de choses à faire. Mais je me suis habitué depuis que je suis jeune, puisque ça a marché relativement vite, à être très occupé, et j'ai l'habitude d'avoir des relations avec des gens que j'aime et qui sont assez espacés, finalement. Je me suis habitué à avoir un tempo un peu éloigné avec des gens. Ça n'abîme pas, ça ne change rien à la qualité de mon amitié ou de mes rapports avec eux.
À quoi ressemblent vos amis ? Comment sont-ils ?
Oh, je sais pas, ils sont très différents. Ils sont pas forcément dans la musique, ils sont pas forcément des artistes. Ils viennent de partout. C'est plus une entente... Une famille d'esprit, je vais dire. La droiture, ça m'importe, en fait. La drôlerie. c'est important pour moi, la confiance. Je mets beaucoup de temps à faire confiance et j'ai besoin d'avoir confiance dans les autres. La trahison amicale, c'est vraiment quelque chose dont j'ai eu du mal à me remettre. Ça m'est arrivé deux ou trois fois et j'ai trouvé ça très très dur, presque plus dur à la limite que les trahisons amoureuses. Je trouve que les trahisons de l'amitié, l'amitié a quelque chose d'assez éternel qu'il n'y a pas dans l'amour en fait.
Les médias francophones publics vous ont proposé Dao, fan de pop. Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer. Attaché de production Cécile Claire. Narration Christelle André.
Je prends mon élan, mon corps se détend et plane dans l'eau glacée parmi les algues multicolorées. À nouveau, je viens te chercher à contre-courant des bancs de poissons, des bas-fonds du chemin des noyers. Premier secours à personne en danger. N'aie pas peur, je viens te chercher en nage indienne où on va se couler. À la surface, je vais te hisser. Oh, oh. Serre-moi fort, si ton corps se fait plus léger, nous pourrons remonter. Sur le sable séché, toutes tes cellules pétillent comme des bulles. Peu à peu réoxygénées en nage indienne, où on va se couler sans sortir indemne de se fait plus léger, je pourrais me sauver. Serre-moi fort, si ton corps se fait plus léger, je pourrais nous sauver. Nous sauver. Nous sauver. En nage indienne, se couler sans sortir indemne de hisser. Oh, oh, oh. Serre-moi fort, si ton cœur se fait plus léger, je pourrais te sauver. Serre-moi fort, si ton cœur se fait plus léger, je pourrais te sauver. Se fait plus léger, je pourrais nous sauver. Serre-moi fort, nous sauver. Serre-moi fort, nous sauver. Oui, nous sauver. Serre-moi fort, nous sauver.
Dao, fan de toi. Dans le prochain épisode, nous saurons comment Rennes est devenue la capitale française du rock à la fin des années 70.
Et à Rennes, c'était un peu une vie de patachon, quoi. C'était beaucoup boire, avoir une vie assez dissolue, très légère, se réveiller à 15h, soigner une gueule de bois, ressortir, séduire n'importe qui, ramener cette personne à la maison. C'était que ça.
Tout ce monde-là s'est un peu déplacé vers le bar de l'Épée, parce que Rennes Musique, un autre magasin de disques très important ici, a ouvert à côté de l'Épée.
Un petit bar sympathique.
Jean-Louis Brossard.
Un lieu où on se retrouvait, qui était assez particulier.
Co-fondateur des Transmusicales de Rennes.
Parce que je me rappelle que le patron, des fois, pétait un câble et que sa femme prenait une serpillière mouillée puis commençait à lui envoyer quelques gifles à coups de serpillière. Et nous, on était là, un peu étonnés. À part ça, c'est un endroit où se retrouvaient effectivement les musiciens de Marquis de Sade aussi. Il y avait pas mal, quoi.
Qu'est-ce qu'on y buvait ici avant de partir faire la fête un peu plus loin?
Ah, de la bière.
Jean-Christophe Éluard, ami de jeunesse d'Étienne Daou.
Uniquement que de la bière, voilà, c'était la seule chose qu'on buvait, c'était de la bière, oui. On n'était pas riches, et on comptait nos sous.
Et on se parlait de quoi, on se racontait quoi?
Ah, de tout, mais c'était une espèce de climat d'innocence, où il n'y avait pas vraiment de sujet abordé, si ce n'est le côté festif, et on parlait du cul. Tout était frais, et on n'avait aucun tabou par rapport à ça. Et bah, quand on aimait bien quelqu'un, bah, voilà, on lui disait, et on en parlait, et on se mélangeait.
Don't go.